Couleur d'exil, couleur au pluriel, de nombreux portraits d'hommes et de femmes sud-africains exilés en Europe, aux États-Unis, et que Marie-Noëlle Anderson a rencontré et dont, à qui elle a donné la parole. Alors, Marie-Noëlle, il y a bien sûr une chose essentielle à faire partager à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est l'idée de l'exil en tant que tel. Parce que, bon, bien sûr, ces hommes et ces femmes vous ont raconté comme, qu'est-ce qu'ils vivaient en Afrique du Sud, qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait qu'ils ont dû partir ou choisi de partir, ou qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu rentrer, parce qu'il y a ces trois situations. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait commencer par clarifier. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, hommes ou femmes, ont toujours... Était acculé à devoir partir? Est-ce que l'exil est une chose comme on imagine souvent et que peut-être aussi les gens ont découvert dans les films qui ont été réalisés sur l'Afrique du Sud où on voit, bah, on sait que, hein, on est averti qu'on va être arrêté, alors vite en pleine nuit on remplit une valise et on va passer la frontière pour le Botswana ou les autos en traversant la brousse, etc., les épines. Est-ce que c'est toujours une situation comme celle-là?
Non, pas du tout. Je veux dire, ça a été des situations extrêmes. D'ailleurs, ils n'avaient pas toujours le temps de remplir une valise.
En plus, oui.
Mais c'est évident qu'il y a eu beaucoup simplement d'expatriés, peut-être plus parmi la population blanche, je dirais, de gens qui sortaient pour aller voir le monde et qui tout d'un coup se sont rendus compte que l'Afrique du Sud était une prison. Je veux dire, ils se sont rendus compte, une fois qu'ils étaient en train de se balader en Europe, par exemple, de tout ce qu'on leur occultait et de tout ce qui était faux. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu des prises de conscience et qu'ils sont devenus des exilés. Parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à s'engager, et, par exemple, dans des mouvements anti-apartheid et à forcément ne plus pouvoir rentrer parce qu'on ne les laissait plus entrer à ce moment-là. Il y a aussi eu les cas de personnes qui sortaient pour étudier et qui, au départ, n'avaient absolument pas l'intention de finir en exil. Mais qui sont partis pour faire des études, pour pouvoir ensuite mettre ces connaissances à profit dans leur pays au retour, et qui, par une suite de circonstances, sont devenus des exilés. Par exemple, il y a le témoignage de Kwani Warako, qui est une femme absolument merveilleuse, qui était partie pour étudier en Angleterre. Et elle s'est retrouvée un jour, après avoir épousé un Namibien en Angleterre, à vouloir renouveler son passeport sud-africain, et on lui a dit non. Sans explication, simplement parce qu'elle avait épousé un Namibien qui était forcément dans la lutte. À l'époque, c'était encore le sud-ouest africain, c'était pas encore la Namibie. Donc lui était dans la lutte. Et le gouvernement sud-africain a refusé de lui renouveler son passeport. Donc elle est devenue apatride en étant à Londres. Et forcément, elle s'est dit, si déjà je suis exilée, que ça serve au moins quelque chose. Et je vais me mettre à lutter, à dire ce que j'ai à dire. Et elle a commencé à être extrêmement active dans toutes sortes de mouvements de femmes. Elle travaillait d'ailleurs ici à ISIS, à Genève. Et elle a été extrêmement active pour dénoncer tout ce qui se passait en Afrique du Sud.
Et puis, il y a ceux aussi qui apparemment, pour en tout cas les autorités qui les reçoivent au moment où ils demandent le refuge, où on leur dit non mais vous n'êtes pas vraiment réfugié, vous n'avez pas le statut de réfugié, qui sous-estiment le poids de certaines choses. Par exemple, je crois qu'un des témoignages aussi de femmes, Lorna, qui elle a un mariage mixte et les gens ne se rendent pas compte ce que ça veut dire à l'époque de se marier avec un blanc alors qu'on est métisse ou pour un noir se marier avec une blanche et inversement.
Oui, tout à fait. Tant qu'on est non blanc, homme ou femme, on n'avait absolument pas le droit d'avoir quoi que ce soit comme relation sexuelle, mariage ou hors mariage, avec une personne d'une autre race. Lone s'est retrouvée justement mariée, mais pas légalement, parce qu'elle savait qu'elle allait partir en exil. Elle avait rencontré un blanc. Elle avait fait une superbe fête de mariage avant de partir avec tous ses amis. Et quand ils sont arrivés au Botswana après des péripéties absolument folles, on lui a dit au fond, vous n'êtes pas vraiment réfugié politique, alors qu'elle avait déjà passé plusieurs mois en prison en Afrique du Sud. Elle était enseignante et à l'époque des mouvements de Soweto, du soulèvement des enfants, des jeunes, elle leur avait aussi expliqué les choses, elle ne leur avait pas caché la vérité. Donc elle avait été mise en prison pour cette raison. Et malgré ça, on lui a dit au fond, mais non, vous, ce serait beaucoup mieux, vous retournez en Afrique du Sud et vous repartez depuis là. Alors que c'est évident que l'un et l'autre, parce que son mari, il s'était enfui, enfin, il avait fait ce choix d'exil parce qu'il refusait de faire le service militaire, d'aller se battre en Angola. Et, ils se sont retrouvés, donc les deux, dans une impossibilité totale de retourner en Afrique du Sud. Et ils ont dû d'abord vraiment se battre contre plein de dragons au Botswana avant de trouver un pays d'accueil qui finalement était l'Angleterre.
Et puis, dans les nombreux portraits, 13 portraits que vous nous proposez, Marie-Noëlle, il y a 4 portraits de femmes et il y a des portraits aussi bien de Sud-Africains blancs, noirs, métis, une indienne même. Donc, il y a visiblement la répression, et on le sait quand même, heureusement, maintenant, se porte aussi bien sur les noirs que sur les blancs et sur d'autres communautés qui vivent en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez essayé de faire un équilibre de ces situations? Est-ce que vous vouliez montrer qu'effectivement, il y a des blancs qui s'engagent de façon très, très importante aux côtés des noirs et que c'était important de témoigner de ces situations aussi graves pour les uns que pour les autres?
Oui, absolument. Donc, ce qui a été important aussi, c'était d'avoir un échantillonnage, un éventail complet de la société sud-africaine. Donc, pour ça, il fallait qu'il y ait des hommes, des femmes, des blancs, comme vous venez de le dire, des personnes de toutes les races, de tous les âges aussi, et de toutes les conditions sociales. Donc, c'est évident que c'est important aussi de dire qu'il y a beaucoup de blancs qui sont engagés et comment, et que ça pourra peut-être stimuler d'autres gens sur place quand ils liront le livre en anglais.
D'ailleurs, un de vos témoignages qui est réalisé par une femme, Mouata, et qui dit qu'elle se sentait assez privilégiée dans sa vie en Afrique du Sud, puisqu'elle avait des parents qui étaient médecins et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'envoyer étudier dans une bonne école. Nous reviendrons au problème d'éducation tout à l'heure. Mais qui dit, mais une fois qu'on est en exil de toute façon, ou bien par rapport à la répression qu'on subit en Afrique du Sud, on est tous les mêmes, il n'y a plus de différence.
Tout à fait. Tant qu'on est non-blanc, qu'on soit riche ou pauvre, ça revient absolument au même. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, une fois en exil, qu'on soit en exil aux États-Unis, comme elle l'a été au départ, ou ensuite en Suisse, ça revient au même aussi, parce que l'important, c'est de pouvoir continuer à rester dans la lutte, à faire quelque chose pour son pays, même de l'extérieur, et justement attendre le fameux jour où on pourra rentrer.
Donc aucun des exilés que vous avez rencontrés n'avait vraiment choisi le lieu où il voulait aller. On ne s'amuse pas à faire ce genre de choses. C'est plutôt le lieu qui veut bien vous accueillir.
C'est ça. Surtout, donc, en tout cas, les réfugiés politiques, c'est clair qu'ils étaient dépendants des pays qui voulaient bien les accueillir. Ça, c'est sûr. Parce que, en fait, ces gens, en général, n'ont plus de passeport. Ils ont des documents de voyage. Ces pays se portent garants, c'est un peu une seconde patrie.
Et donc finalement, la difficulté essentielle va être de s'adapter, peu importe où, mais c'est de s'adapter à cette nouvelle vie partagée entre ce qu'on vient de laisser derrière nous, aussi difficile que cela a pu être, et puis cette nécessité de s'intégrer dans une société qui est tellement différente que celle qu'on vient de quitter. Et ça, tous les témoignages que vous avez recueillis, chacun et chacune évoque cette difficulté. Hein. On sent que vraiment, c'est un déracinement très, très important.
Tout à fait, parce qu'il faut bien comprendre que quand on arrive en exil, eh bien, on est plutôt vacillant déjà au départ, parce que justement, à cause de tous les traumatismes, tout ce qu'on a vécu, et qu'on se retrouve tout d'un coup dans une société, je veux dire, ça n'a aucune importance que ce soit en Suisse, en Angleterre ou ailleurs, je veux dire, tellement différente, que d'abord, il faut simplement être là, puis regarder, et ensuite voir comment on peut se faire une petite place, déjà pour survivre économiquement, ce qui n'est pas toujours évident, et ensuite pour survivre en tant qu'être humain, qui a envie d'avoir des contacts, de communiquer avec les gens, ce n'est pas toujours facile. Et il n'y a pas seulement cette question de s'adapter, il y a aussi toute la question de garder ses racines en même temps. Parce que forcément, on est un petit peu déséquilibré, on ne sait plus très bien qui on a. Je veux dire, pour finir, on a un pied dans chaque culture. Et c'est important, ils ressentent tous ce besoin très important de garder leurs racines.
Alors comment font-ils? Est-ce qu'ils ont tendance à se regrouper? Bon, en Suisse, à Genève, pour prendre une référence qui nous sera commune à tous et à toutes, on a vu défiler les exilés chiliens, les exilés brésiliens, dont on sait qu'ils avaient une communauté très resserrée. Est-ce que c'est un peu le même réflexe qu'ont les Sud-Africains lorsqu'ils sont en exil?
Oui, tout à fait. C'est surtout possible, je dirais, en Angleterre, où la communauté sud-africaine est très, très grande. Il y a beaucoup, beaucoup de Sud-Africains, déjà pour la langue. parce que, pour des facilités évidentes de communication, quand c'était possible, ils ont en général choisi l'Angleterre. Bon, il y en a pas mal qui sont allés en Hollande, mais le hollandais, enfin l'afrikaans, c'était quand même la langue de l'oppresseur. Donc, dans la mesure du possible, ils préfèrent aller soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et là, il y a une grande communauté où ils se serrent les coudes, ils se voient très souvent entre eux. Bon, en Suisse, à Genève, il y en a beaucoup moins. Néanmoins, bon, ce sont, je crois, passablement des gens qui travaillent dans les organisations internationales, conseils des églises. Ils se retrouvent quand même beaucoup entre eux, j'ai l'impression, enfin d'après ce que j'ai pu voir comme ça, que ce soit sud-africains, personnes du Zimbabwe, aussi Zambie, ils ont une petite communauté, ils se retrouvent beaucoup entre eux.
Qu'est-ce qui fait, Marie-Noël, que ces gens ne choisissent pas d'aller en exil justement dans les pays voisins? Est-ce que l'Afrique du Sud a un pouvoir tel qu'elle contrôle ce qui se passe, y compris dans ces pays qui ce n'est plus, c'est pas sûr non plus, ce qui ferait peut-être un décalage moins important de mode de vie?
Donc, il y a énormément d'exilés sud-africains dans les pays voisins, comme vous dites. Mais bon, ce sont les plus défavorisés. Donc, ce sont des gens qui sont partis, des gens qui n'ont pas d'éducation, qui se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, vraiment dans tous les pays limitrophes. Donc Mozambique, Zimbabwe, Angola, et ces fameux frontline states, comme on les a appelés, où l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain, a complètement mainmise. Et donc, on a bien vu tous les problèmes encore maintenant, ces jours, avec l'Angola, où la guerre reprend de plus belle. Tout ça, ce sont des situations attisées par l'Afrique du Sud, justement, pour vraiment diviser un maximum. Et les exilés qui sont retrouvés dans ces camps, en partie, sont rentrés. Mais comme je disais, ce sont vraiment les gens beaucoup plus défavorisés, qui ont aussi beaucoup plus de peine à s'adapter économiquement. Et pour la grande partie, c'était des gens, je crois, qui ont été passablement pris en charge à ce moment-là par les mouvements comme l'ANC, le PAC. Et au fond, les exilés qui avaient pu faire des études, des gens qui avaient de quoi trouver un travail plus facilement, en partant dans un autre pays, donc à être autonome, à tenir debout tout seul, ont choisi de partir plus loin. Il y en a eu pas mal aussi dans des pays plus au nord de l'Afrique.
Alors, on disait tout à l'heure, il y a une difficulté, c'est à la fois de garder ses racines et de s'adapter au pays où on se trouve. Il y a une situation qui ressort dans pas mal de témoignages que vous avez recueillis, c'est le rapport avec les enfants. La plupart des gens que vous avez interviewés, Marie-Noël, ont des enfants.
Oui, alors vous savez que les enfants en Afrique du Sud, c'est très important, bon, pour plusieurs raisons, parce que l'Afrique du Sud, c'est vraiment un continent, c'est pas un continent, l'Afrique est un continent où les enfants sont très importants, parce que je vois toujours cette Afrique comme Mama Africa, donc elle enfante des enfants. Et en Afrique du Sud, plus particulièrement, les enfants ont été très 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 importants, parce que c'est au fond eux qui, en 76, quand il y a eu tous les événements terribles de Soweto, ont relancé la lutte, parce qu'on en était arrivé à un point où leurs parents, grands-parents étaient tellement épuisés, étaient dépités, désespérés, qu'au fond ils avaient un peu perdu l'espoir et perdu la foi dans leur lutte. Et ces enfants ont refusé de recevoir un enseignement en afrikaans. Donc c'est tout dans le cadre de cette fameuse loi de l'éducation bantou.
Peut-être qu'il faut la rappeler, parce que je suis pas sûre que tout le monde se souvienne de quelles contraintes impose la loi bantou sur l'éducation.
Bon, cette loi imposait justement tout l'enseignement en afrikaans. Bon, en plus d'imposer un enseignement de deuxième, troisième, quatrième qualité, parce que le but, c'était effectivement que les non-blancs restent dans des professions assez peu élevées et n'aient pas la possibilité d'accéder à autre chose, à une autre qualité de vie. Donc, on leur enseignait le moins possible. Et forcément, de donner tout un enseignement en afrikaans, ça oblige aussi cette continuité dans la coupure qu'on a avec le reste du monde, avec l'Afrique du Sud, qui est vraiment là tout au fond du continent africain. Et l'afrikaans, c'est une langue qui ne se parle nulle part ailleurs. Bon, elle est apparentée au hollandais, mais forcément, ça n'a rien à voir avec l'anglais qui ouvre toutes les portes du monde. Donc les enfants se sont révoltés ils sont descendus dans les rues pacifiquement et la police a tiré sur eux. Donc je crois que la plupart des auditrices et des auditeurs connaissent quand même un peu ces événements qui ont été complètement vraiment tragiques et bouleversants. Et ce sont ces enfants qui ont redonné une flamme à la lutte et au fond les parents, en les voyant aussi déterminés, ont repris aussi exemple sur eux et ont repris la lutte.
Mais alors, du coup, il y a quand même parmi les gens que vous avez interviewés, et bien sûr surtout les femmes, qui sont très préoccupées par quel va être le sort de leurs enfants en exil. Il y a à la fois, par exemple, cette femme qui dit « Maintenant, j'ai fait mon devoir, j'ai épargné ce système, en parlant de l'apartheid, à mes enfants. » Si je me souviens bien, je crois que c'est Kwani, c'est ça?
C'est Kwani, tout à voilà. fait, oui, c'est ça.
Bon, et par ailleurs, il y en a d'autres qui disent « Mais mon enfant, mon fils ne connaît pas l'Afrique du Sud, il y est allé qu'une seule fois en vacances et c'est tout ce qu'il connaît. » Donc il y a à la fois cette envie de leur épargner cette horreur et puis en même temps ce déchirement de dire « Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le pays. » Parce que souvent les enfants sont nés parfois en exil.
Tout à fait. C'est une situation très ambiguë parce que bon, on comprendra bien que la priorité c'est la vie. Donc une mère qui peut dire « Voilà, je lui ai épargné la mort » puisqu'on sait que justement, enfin ses enfants, la police leur tire dessus, va les chercher dans l'école, etc. Ça, c'est en tout cas une chose qui ne se produit pas en exil. Donc, leurs enfants sont en vie, le pire a été épargné. Et en plus, ils ont quand même eu une bonne éducation. Mais c'est clair que tout le côté extrêmement important de la tradition orale, des grands-mères par exemple, toutes ces racines-là beaucoup plus subtiles, ça manque. Alors, c'est encore plus difficile quand ce sont des couples, des gens qui se sont connus en exil, par exemple un Sud-Africain ou une Sud-Africaine qui aurait épousé un Suisse ou une Suissesse, parce que là, ça manque, c'est beaucoup plus difficile de donner l'autre côté qui manque, justement. Mmh. Mais c'est une préoccupation que tous les exilés ont de continuer de leur donner ces valeurs essentielles que l'Africa, et comme le disait justement Kwani Soferer, en fait, on parle des droits de l'homme, et c'est bien entendu, mais pour nous, c'est rien de nouveau, parce que l'Afrique, elle pratique ce genre de choses, enfin de valeurs, depuis toujours, de mémoire ancestrale. Et bon, dans une civilisation, une société moderne, c'est un peu difficile d'avoir sa porte ouverte jour et nuit pour le voyageur qui risque de passer là. Mais enfin, ce sont des concepts que ces gens, ces femmes, ces pères aussi essayent un maximum de donner à leurs enfants. Et bon, ils vont en Afrique du Sud forcément quand ils peuvent, pour des vacances, ou ils essayent de ne pas couper le contact avec les grands-mères qui sont justement les gardiennes de toute cette tradition.
Mais c'est une chose qui justement leur manque énormément aussi. Quand vous leur demandez, mais qu'est-ce qui vous manque beaucoup, quel est le poids du souvenir, souvent ils vous répondent, mais ce système ici qu'on ne comprend rien en Europe, c'est tellement froid, les gens ne se parlent pas, ils laissent leurs vieux dans des asiles, les enfants doivent écrire aux familles un petit mot pour pouvoir aller se rendre visite. Enfin, visiblement, le poids de l'isolement entre les gens est très, très lourd pour ces gens.
Tout à fait. Je crois qu'un mot clé, ce serait au fond solidarité. Que ce soit entre différentes cultures, que ce soit en différentes générations. En Afrique, tout se mélange, je veux dire. Il n'y a pas ce clivage entre jeunes et vieux, etc. Donc les jeunes, ils prennent soin des personnes âgées, de leur famille, ou alors on trouve une autre famille d'accueil. Mais il n'y a pas ce clivage, cette espèce d'exil, justement, dans la société. Et pour eux, c'est très important de transmettre tout ça aux enfants. Et ce qu'il leur manque en effet le plus, en général, c'est la vie dans la rue. Tout ce qui se passe dans la rue, les palabres, je veux dire, on voit vraiment l'arbre en Afrique avec tout le village qui se rassemble autour de l'arbre et la palabre. Et ça, en Europe, ça n'existe presque pas. Bon, dans les pays méridionaux, un peu plus. Mais disons à Londres, en Suisse, c'est assez rare, il faut l'avouer. C'est aussi une forme d'éducation, je veux dire, la rue, c'est dans la rue qu'on apprend la vie, je veux dire, dans les écoles, on apprend ce qu'on met dans la tête, et parfois, finalement, il n'y en a qu'une petite partie qui est vraiment utile par la suite, mais la vraie vie, je veux dire, les défis, qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions, avec tout ce qu'on a affronté tous les jours, c'est dans la rue qu'on l'apprend.
Et alors, comment... entretiennent tous ces exilés, ces souvenirs auprès de leurs enfants? Parce que finalement, eux doivent se dire, par moments, on se le disait tout à l'heure, mais est-ce que l'image que j'ai de mon pays n'est pas aussi un petit peu transformée, améliorée par la distance? Parce que le pays change, bien évidemment. Comme on disait tout à l'heure, certains sont restés et sont toujours en exil depuis 20 ans. Et donc, le pays, bien sûr, a changé. Les choses ne sont pas forcément si dorées que les gens se les imaginent.
C'est sûr, mais je pense que au niveau de la transmission aux enfants, c'est pas grave, parce que même si on idéalise, je veux dire, c'est comme un conte, je veux dire, un conte de fées où tout finit bien, c'est pas non plus la vie de tous les jours, toujours, loin de là. Mais de transmettre même des choses, justement, toute une beauté du pays, toute une harmonie dans les valeurs, dans les échanges, même si c'est idéalisé, même si aujourd'hui ça se passe peut-être moins comme ça, ça n'a pas d'importance. Là, ce qui est vraiment fondamental, c'est que ce soit une vision du monde qui soit retransmise, parce que c'est une vision du monde un peu idéale qu'on aimerait retrouver, je crois, nous tous.
Et qui permet, entre autres, de préparer le retour?
Oui, alors absolument. Mais comme on le disait, le retour, c'est un gros point d'interrogation, parce que c'est une chose tant attendue. Et tout d'un coup, quand ça arrive, je veux dire, en allemand, on parle toujours de la Vorfreude. C'est vraiment quelque chose, un concept important, parce que c'est souvent plus important au niveau de la réjouissance. Et quand on est vraiment confronté avec, voilà, maintenant, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Je peux, j'ai plus l'alibi d'avoir la frontière fermée, je peux recevoir un passeport, je peux rentrer. Simplement, après, il faudra assumer, parce qu'il faudra vraiment faire avec toute cette situation en Afrique du Sud maintenant, où l'infrastructure est complètement inexistante, je veux dire, d'un point de vue simplement pratique, maison, logement, etc. Il faudra trouver un travail. Donc, quand on vit à l'extérieur, on a pris l'habitude d'un appartement, quand même, je veux dire, quelque chose de relativement confortable. Et en Afrique du Sud, ce n'est pas du tout évident, je veux dire, qu'ils retrouvent les mêmes possibilités. Alors, tout d'un coup, ils sont confrontés avec la réalité et ce n'est pas facile.
D'autant plus que les enfants ayant souvent vécu en exil seulement, les parents sont peut-être déchirés de savoir est-ce qu'ils vont rester dans le pays d'exil pour que leurs enfants ne changent pas tout à coup de milieu total, ou est-ce qu'ils vont rentrer par rapport à l'appel de leur propre racine à eux.
C'est ça, tout à fait. Et bon, il y a des gens qui font le choix de laisser leurs enfants, par exemple en Europe, ou enfin dans les écoles, des pensionnats, ou je ne sais pas, où ils terminent leurs études avant de rentrer, si les parents décident de choisissent de rentrer avant. Parce que c'est clair que c'est un déracinement énorme pour un enfant. On ne peut pas lui demander de vivre dans des conditions hygiéniques déplorables. Je veux dire, on ne peut pas demander à un enfant de prendre les mêmes risques ou de faire les mêmes choix qu'un adulte ferait peut-être.
Alors, ce qui fait dire à Kwani aussi, quand on vit en exil, il est indispensable d'avoir des enfants indépendants.
Tout à fait, oui. Et ça, je crois que c'était une bonne leçon qu'elle nous donne vraiment, parce qu'elle a su rendre ses enfants complètement indépendants tout en leur donnant toute cette sagesse africaine, cette sagesse ancestrale et ses valeurs. Et je crois que vraiment, c'est une femme formidable, parce qu'elle aura su faire une conciliation des deux mondes, en fait, du monde africain et du monde occidental.
Beaucoup des femmes que vous avez interrogées ont ce problème des enfants. Ouattara, une situation très particulière aussi. Non, c'est qui? Excusez-moi, là, je suis en train de faire un petit mélange. Je crois que c'est Lorna, non?
C'est Lorna, je pense. Voilà. Je ne sais pas de quoi vous allez parler, voilà. Mais...
elle a eu un premier enfant, a eu des jumeaux, a eu encore une fille où elle a été séparée de certains de ses enfants et a dû envoyer son premier fils tout seul dans un premier temps parce qu'ils avaient été, eux, retenus à l'aéroport. Des histoires qui semblent très difficiles autour des enfants.
Oui, tout à fait. Donc, son premier fils est parti en exil tout seul à l'âge de 14 ans, je crois. Et, parce que à la dernière minute, à l'aéroport, le futur mari donc de Lorna a été retenu. On l'a empêché de partir. Et ils avaient convenu que si quoi que ce soit se passait, eh ben, l'enfant partirait tout seul. Et forcément, ça, c'est une aventure qui marque une vie quand même, hein, parce que lui, il n'avait jamais connu quoi que ce soit d'autre en dehors de l'Afrique du Sud et il s'est retrouvé parachuté dans un monde inouï. Bon, l'aventure s'est bien terminée pour lui, mais ça a été quelque chose de très fort. Et ensuite, elle a eu en Afrique du Sud toujours des jumeaux. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle a laissé ses jumeaux en Afrique du Sud quand elle est partie. parce que le père n'avait pas du tout envie de les partager, si on peut dire. Et, quand elle a pu revenir en Afrique du Sud, elle, son premier but, c'était d'aller voir les jumeaux, parce que forcément, elle avait une image de mère déplorable qu'on lui avait donnée, et elle voulait quand même que ses enfants connaissent leur mère, quitte à eux de décider après s'ils l'aimaient ou pas, enfin ce que représentait cette personne pour eux. Et après 15 ans donc, d'exil, elle est retournée, elle a pu retourner, elle a rencontré ses enfants. Ça a été extrêmement émouvant. Et ses enfants sont par la suite, ces jumeaux sont venus chez eux habiter en Angleterre où ils ont fait une année d'études. Alors ça, c'est un happy end, c'est magnifique. Donc c'était vraiment un très bon contact et ils ont vécu, ils ont pu voir l'Europe. Ça a été fabuleux.
Alors que nos auditrices le sachent, ce happy end ne figure pas dans le livre de Laura, de Marie-Noëlle Anderson. C'est une chose nouvelle que vous saviez,
tout
parce
à
que
fait.
L'histoire s'arrête avant.
Voilà, c'est un scoop, c'est une chose que j'ai appris il y a quelques jours.
Comme quoi, c'est toujours un grand privilège de rencontrer les auteurs des livres, parce qu'on en apprend toujours un petit peu plus. Alors, on va donner maintenant la parole et la musique à un groupe de jeunes que, on peut l'imaginer, nos auditrices ou nos auditeurs ont entendu et rencontré. C'est le groupe Serafina qui justement raconte toute cette explosion parmi la jeunesse.
Oui, c'est donc un spectacle qui a été créé il y a quelques années par Mbonge Ningema et avec la musique de Hugh Masekela. Et ce sont des jeunes, vraiment des adolescents qu'il a fait tourner dans le monde entier et qui racontent cette explosion de violence et ce que ça a représenté, donc le Soweto de 76. C'est un spectacle très, très émouvant et très beau. Et là, on va les entendre, ces enfants, dans un chant qui s'appelle « Freedom is coming tomorrow ». Donc la paix, c'est pour demain. On l'espère de tout cœur avec eux.
Don't you think